session de théologie par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont le 25 août 1993, sixième conférence.
Je verrai tout à l'heure les diverses questions qui s'imposent. Je dis ça pour montrer qu'on s'intéresse aux interrogations, qu'on ne les oublie pas. Je reprends la fin de ce qu'on voyait hier au soir, ce passage si important dans l'évangile de Jean, ce sommet sur le paraclet. Il faut revenir toujours à ces cinq affirmations successives, les recevoir pour comprendre ce que Jésus veut pour nous en nous envoyant le paraclet. C'est quand même très important. Jésus est venu pour nous sauver par la croix. Il nous donne son corps nourriture, et il nous donne son esprit. L'Esprit Saint, c'est un don royal, le plus royal qui soit, donner l'Esprit Saint. Alors, cet enseignement que nous donne Jésus est très important. Je reprends donc le numéro 4 et 5. Cependant, moi je vous dis la vérité. Mieux vaut pour vous que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Alors, ça c'est très mystérieux, vous voyez. Si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas. Donc la condition, c'est ça qu'il faut comprendre. La condition sine qua non pour que l'Esprit Saint vienne, c'est le mystère de la croix. Puisque Jésus part, nous quitte par le mystère de la croix. Il va pas faire un petit voyage. Mais c'est par le mystère de la croix. Et c'est cette manière de nous quitter qui est le mystère de la croix, qui est la condition sine qua non du don de l'Esprit. Ça, je crois, capital à comprendre. C'est infiniment mystérieux qu'il faut que Jésus porte l'iniquité du monde comme agneau de Dieu pour satisfaire à la justice du Père et appeler sa miséricorde pour que le paraclet soit donné. Vous voyez, on comprend là ce que j'ai essayé de vous rappeler hier et que je crois tellement important quand il s'agit de l'Esprit Saint. De comprendre cette surabondance de la surabondance. C'est ça qui est tellement mystérieux et qui fait que nous avons tellement de peine à entrer dans ce mystère d'amour. Comprendre la justice, ça va très bien. Pas quand on pâtit, mais à comprendre la justice, c'est normal. Un être humain comprend ça. Évidemment, la justice de Dieu, elle est sagesse. Donc elle dépasse toute justice humaine. Mais la justice de Dieu est toujours lié à sa miséricorde. La miséricorde et la justice se sont embrassées. Et c'est ce nœud, puisque l'Esprit Saint est le nœud, c'est ce nœud de la justice et de la miséricorde qui est le don de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il faut ce mystère. mystère de la croix, pour que l'Esprit Saint nous soit donné par Jésus. Mieux vaut pour vous que moi je m'en aille, c'est-à-dire que j'accomplisse le mystère de la croix, que j'accomplisse cette satisfaction à l'égard de tous les péchés. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et une fois venu, alors, c'est ici où il faut bien comprendre, une fois venu, celui-là confondra le monde à propos du péché. Voilà la première illumination d'Esprit Saint. C'est de confondre le monde à propos du péché. Alors je crois que pour bien comprendre cela, il faut regarder toujours ce qui est dit dans la première épître de Saint Jean. Autrement, nous ne comprenons pas bien. Nous avons de la peine à comprendre. La première épître de Saint Jean, au chapitre 2. Ce petit passage est extrêmement important. Donc, 2:15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que de tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la forforanterie des biens, rien n'est du Père, mais cela est du monde. Et le monde passe ainsi que sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais. Voyez, c'est le mot monde qui a diverses significations dans Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. N'aimez pas le monde. Vous voyez, là encore, c'est un exemple merveilleux que s'il n'y a pas la théologie, vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes en face d'une contradiction. Saint Jean nous dit donc expressément, n'aimez pas le monde. Dieu a tant aimé le monde. Alors, comprenons. Le monde, dans Saint Jean, a deux significations distinctes. Le monde avec ses convoitises. Le monde avec ses propagandes. Le monde avec sa culture d'aujourd'hui. C'est le monde qui est sous la mouvance du démon. Le prince de ce monde. C'est Jésus qui dit ça. Le démon est le prince de ce monde. Et là, à ce moment-là, je regarde le monde avec les convoitises qui sont dans le monde. Les trois convoitises, conséquences du péché originel. Donc le monde est en nous. Trop facile de dire qu'il est à Paris. Tandis qu'à Rimont, c'est le ciel. Hein? Non. Le monde est à Paris et il est à Rimont. Quand on reçoit un frère au noviciat, il y a le monde qui entre avec lui. Elle permet de ses biens. Et le monde se dévoile très vite. Et puis il y a le monde, les hommes. Les hommes, en tant qu'ils sont capables de recevoir la grâce, en tant qu'ils sont aimés de Jésus. À la croix, en tant que Jésus a donné sa vie pour les sauver. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il y a en nous les deux. Nous sommes du monde Et le Christ nous fait sortir du monde. Vous n'êtes plus du monde en tant que chrétien. Mais tant qu'on est sur la terre, on doit lutter parce que des convoitises demeurent en nous. Le baptême a enlevé la faute première, fondamentale, et a laissé les convoitises. Alors on peut se demander pourquoi Dieu fait ça. Ça aurait été tellement mieux que le baptême enlève la faute et les convoitises. Nous aurions tous voté pour ça. Et Dieu n'a pas fait ça. Pourquoi ? Pour que nous puissions coopérer au mystère de la croix. Pour que nous puissions, avec Marie, vivre le mystère de la compassion. Lutter contre ses concupiscences. Jésus aurait pu les supprimer et nous remettre dans le paradis terrestre. Et Jésus ne nous a pas remis dans le paradis terrestre. Pourquoi ? Pour que nous soyons unis à l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Et que nous puissions lutter avec lui dans l'agonie et à la croix pour porter l'iniquité du monde. Alors, il faut toujours bien saisir que l'action de l'Esprit Saint, alors vous allez tout de suite comprendre, j'espère. L'action de l'Esprit Saint, une fois venu, celui-là, l'Esprit, le Paraclet, confondra le monde à propos du péché. Le propre du démon, c'est toujours faire un amalgame entre l'homme, image de Dieu, et les convoitises. Des yeux, de la vie, les trois concupiscences. Et de nous faire croire que tout ça est un. Ce qui est très difficile, vous comprenez, c'est de comprendre que nous sommes nés dans le péché. Donc, tout ce qui est à la naissance est naturel. Convoitise du péché, c'est naturel. Est-ce que le psychologue peut faire la distinction entre l'image de Dieu qui est en nous et les convoitises du péché? Tout ça est naturel. Naturel dans le sens que c'est congénital à nous. C'est congénital la concupiscence des yeux. C'est congénital la concupiscence de la vie. C'est les trois concupiscences de la chair, de la vanité et de l'orgueil. C'est comme naturel à nous. Vous n'avez jamais rencontré l'Immaculé. Expérimentalement. Que ferait un psychologue en face de l'Immaculé? Heureusement qu'elle est née avant. Il serait complètement désarçonné. Complètement. Parce que pour lui, c'est normal la concupiscence de la chair. C'est bien évident. C'est normal la concupiscence de la vanité, mais soyez vous-même, quoi, un petit peu. Imposez-vous. C'est normal la concupiscence de l'orgueil. C'est naturel. Ayez votre autonomie naturelle. Alors, dans un regard de l'espérance divine, ce n'est pas naturel les convoitises du péché. Qu'est-ce qui est naturel? C'est l'image de Dieu Capax Dei. C'est l'homme ouvert à Dieu. Voilà ce qui est naturel. Nous sommes appelés par Dieu à connaître Dieu. Nous sommes appelés par Dieu à aimer Dieu. C'est ce qu'il y a de fondamentalement naturel en nous. Les concupiscences, non, c'est un état. Un état. Un état de pécheur. C'est pas naturel. C'est quelque chose qui est venu s'ajouter. Et l'Esprit Saint, alors c'est ça qui est très fort, vous voyez. L'Esprit Saint qui est envoyé par Jésus, une fois venu, celui-là confondra le monde à propos du péché. Confondra le monde. L'Esprit Saint va nous éclairer d'une lumière divine pour que nous ne confondions pas ce qui provient d'image de Dieu en nous et ce qui provient des convoitises. Il confondra le monde du péché. Et le monde, c'est nous. Voyez, en nous, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, en nous, il y a l'image de Dieu par notre âme spirituelle, créée par Dieu, et notre corps, informé par l'âme. Puis il y a les convoitises du péché, et puis il y a la grâce. Et par la grâce, il y a le regard, l'œil du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent en nous par la grâce qui provient de lui. Et l'Esprit Saint confond le monde de péché. Donc, fait le discernement en nous de ce qui relève de l'image de Dieu et de la convoitise de la chair. Et ce discernement ne peut se faire que par l'Esprit Saint. Le psychologue est beaucoup trop myope pour voir ça. Il n'y arrive pas. Alors, il tendra vers un équilibre. Soyez équilibrés. Soyez adaptés au milieu dans lequel vous êtes. Soyez conformes à ce milieu. Et ce milieu, qu'est-ce qu'il est? C'est un milieu d'hommes pécheurs. Être conforme au milieu de la laïcité. Est-ce que c'est un idéal chrétien? Vit un milieu de laïcité. Or, le but, c'est ça. Ils ne peuvent pas chercher autre chose. Ils peuvent uniquement chercher ça, qu'on soit conforme. Ce n'est pas la finalité. La finalité de l'homme, ce n'est pas l'équilibre. La finalité de l'homme, ce n'est pas l'adaptation. La finalité de l'homme, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, aimer le prochain. Oui, c'est pour ça que ce petit passage est tellement fort et tellement important à bien comprendre. Une fois venu, celui-là confondra le monde à propos de péché et de justice et de jugement. Il y a les trois. Comme il y a les trois concupiscences. Du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ah. C'est tout de suite au point de vue surnaturel. C'est très difficile de croire à cause de l'orgueil. S'il n'y avait pas d'orgueil, on serait tous joyeux d'être des croyants. Et à cause de la concupiscence de la vie, l'orgueil, on a beaucoup de peine de croire. à cause de l'orgueil, il y a le positivisme. On accepte que ce que l'homme est capable de découvrir, et découvre par des méthodes scientifiques. On n'accepte rien d'autre. Alors la première chose que fait l'Esprit Saint, c'est de confondre le monde, c'est-à-dire nous. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà le péché fondamental, c'est de ne pas avoir confiance en Jésus, c'est de rejeter le Sauveur. Le Saint-Père a dit, en venant à Paris la première fois, quand il a réuni les évêques à huis clos, il leur a fait un petit discours que vous pouvez trouver dans la documentation catholique de l'époque, parce que c'est pas répété chaque fois. Le Saint-Père a dit aux évêques, l'Église d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous, nous sommes l'Église d'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui est en face d'une méta-tentation, d'une tentation plus grande qu'elle n'a jamais connue. Et cette tentation, c'est de croire que l'homme est capable de se sauver par lui-même. La méta-tentation, c'est de rejeter le Sauveur. Et c'est de croire que l'homme peut, par des procédés humains, par des techniques humaines, se sauver lui-même. C'est très fort, cette parole du pape. Vous voyez, regardez-la dans la lumière de ce qui est dit ici. C'est la grande tentation pour l'Église et donc pour nous tous. C'est de croire que l'homme peut se sauver lui-même. C'est de ne pas voir que nous sommes nés dans le péché et que nous sommes incapables par nous-mêmes de sortir de ces conséquences du péché. Par nous-mêmes, par notre autonomie, par notre clairvoyance, par notre intelligence, incapables par nous-mêmes. Seul le Christ peut. Donc deux péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne m'apercevrez plus. La justice ne peut se comprendre que dans le cœur de Jésus à la croix. Jésus face au Père, Jésus relatif au Père. De jugement, c'est-à-dire de discernement, parce que le chef de ce monde est désormais jugé. Alors, c'est très curieux, ce serait très intéressant, et c'est pas commode à bien préciser, hein. Ce serait très intéressant de voir les trois concupiscences et les trois discernements d'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint vient illuminer notre cœur pour que nous comprenions ces trois concupiscences qui nous alourdissent, qui font un amalgame avec l'image de Dieu et qui nous empêchent de découvrir notre finalité. Et c'est dit avec une très grande force et une très grande simplicité. On aurait aimé qu'il y ait le petit piou-piou qui dit « Seigneur, explique un tout petit peu. Donnez-nous un tout petit peu plus de lumière, montrez-nous un tout petit peu. » Pas du tout. Jésus aime de donner ses formules très fortes pour que nous en comprenions toute la richesse. Exactement. Pourquoi l'Esprit Saint emploie le même mot, le monde, qu'on ne doit pas aimer, et le monde que le Père aime? Pourquoi il emploie le même mot? Ça aurait été si simple, hein, de dire je sais pas quoi, les pécheurs. Non, il dit le monde. Et le monde que Dieu a tant aimé. Pourquoi l'Esprit Saint emploie-t-il le même mot? Pour nous obliger d'être intelligents. T'as pas d'éducateur, ce que l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'aime pas les paresseux. Dites-vous bien ça. Les enfants gâtés. Il veut qu'on soit des serviteurs de Dieu. Et si on est un bon serviteur de Dieu, attaché à ce qu'on doit faire, il nous aide tout le temps. Qu'il fasse de nous un roi, ça lui aurait pu dire j'aime mieux le désert. Non, il est resté à son poste. Qu'il nous demande de faire de la philosophie et de la théologie, on doit rester à son poste. Qu'il nous demande d'être un artiste, on doit rester à son poste. Qu'il nous demande d'être un chef d'entreprise, on doit rester à son poste. Aucun poste n'est contraire à l'Esprit Saint. Mais il y en a qui ne sont pas commodes. Il y en a qui ne sont pas commodes. Parce que quand vous êtes votre métier, c'est de faire gagner de l'argent aux gens, de faire de la propagande, vous avez l'impression de mentir tout le temps. Alors il faut demander à l'Esprit Saint de mieux nous faire comprendre où est la lisière du monde qu'on ne doit pas aimer et le monde qu'on doit aimer. Qu'est-ce qu'il y a de plus profond en nous? Qu'est-ce qu'il y a de plus profond en nous? Est-ce l'image de Dieu ou est-ce les convoitises du péché? Vous voyez, quand on parle de la psychologie des profondeurs, hein, la psychologie des profondeurs, c'est très superficiel comparativement à l'image de Dieu. C'est l'état de pécheur, c'est ça, la psychologie des profondeurs. La psychologie des profondeurs, c'est saisir en nous tout ce qu'il y a de radical dans la concupiscence, l'instinct. Mais cet instinct, il est fourvoyé dès le point de départ, puisqu'on est dans un état de pécheur. L'irascible en nous, il est fourvoyé dès le point de départ. Ce qui rend nous un appétit extraordinaire de vanité, de dominer les gens, d'être toujours l'original, tout le temps. Puis en nous, un désir d'être génial, le premier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors on doit aimer l'intelligence, on doit aimer cette volonté d'aimer, on doit aimer notre corps, on doit l'aimer divinement et humainement, et on doit rejeter tout ce qui est cet état de convoitise. Et cet état de convoitise se présente différemment chez le tout petit enfant. La pédagogie chrétienne. La pédagogie chrétienne ne peut se faire que dans la lumière d'Esprit Saint. Autrement, c'est plus la pédagogie chrétienne. Elle est différente pour le tout petit enfant, elle est différente pour l'adulte, elle est différente pour le saint, l'homme. C'est pour ça que ce passage est très très important. Il est difficile, mais il est très très beau. Parce qu'on voit l'action de l'Esprit Saint qui fait le discernement. Oui, jugement, tout de suite traduisez discernement entre le bien et le mal. Une fois venu, celui-là confondra le monde à propos du péché, à propos de justice, à propos de jugement, de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le péché premier, c'est de ne pas croire en Jésus, de ne pas accepter son enseignement comme actuel, comme fondamental, de justice, parce que je m'en vais vers le Père. Ah, ça, c'est peut-être plus difficile à comprendre. De justice, parce que je m'en vais vers le Père. La justice, c'est quoi? C'est l'ordre immanent qui doit exister en nous, pour que nous puissions comprendre ce qui est notre bien et le bien du prochain. C'est ça la justice. Respecter les droits de l'autre. Et donc, arriver à bien saisir ce que représente l'ordre entre nous-mêmes comme créatures et le Père. Alors on comprend. À l'adoration en esprit et en vérité. S'il n'y a pas l'adoration en esprit et en vérité, nous ne connaissons plus la vraie justice. Parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne m'apercevez plus. Jésus n'est plus là, présent, pour nous apprendre ce qu'est l'adoration. Qui est la vraie justice. Alors je crois que la vraie justice combat contre la grosse vanité, concupiscence des yeux. Et de discernement, de jugement, parce que le chef de ce monde est désormais jugé. La victoire de la croix fait tomber bas le chef de ce monde, le prince de ce monde, qui voudrait tellement dominer sur tout l'univers. Alors on voit qu'on est déjà des victorieux, et on doit vivre en victorieux. C'est tellement important ça. Ils n'ont pas en vaincu. Oui. Ceux qui disent on est déjà vaincu, dans 10 ans, il n'y aura plus de prêtres. En France, mais pas dans le monde. Depuis le Concile, il y a plus de prêtres qu'avant le Concile. Mais il y a des pays où il y en a moins. Et alors, parce que dans ces pays, il y en a moins, il faut vivre comme si les prêtres n'existaient plus. Ça, c'est la mentalité du vaincu. Et c'est contraire à ce qui est dit ici. C'est contraire à l'Esprit Saint. Une tentation prodigieuse aujourd'hui. On devrait comprendre qu'on doit devenir des mendiants. Et devenir des mendiants, c'est accepter qu'il y ait des prêtres polonais, des prêtres indiens qui viennent nous évangéliser. Alors que pas du tout à l'Église de France, comme si c'était l'Église. D'abord, l'Église de France est une mauvaise proposition. Il faut dire l'Église qui est en France. Il faut s'habituer à dire ça. C'est pas commode, parce que c'est entré tellement dans le langage qu'on dit toujours l'Église de France. L'Église qui est en France. L'Église n'est pas l'Église de France, puisque l'Église catholique est universelle. Et on devrait tout le temps réfléchir à ça. Alors quand on vous dit ces statistiques, dites, ah, mais moi j'aime bien d'avoir la statistique de l'Église catholique. Et dans la lumière de l'Église catholique, regardez l'Église qui est en France. Je crois s'il y a quelque chose de très fort, de jugement, parce que le chef de ce monde est désormais jugé. Si le chef de ce monde est désormais jugé, nous sommes des victorieux. Saint Thomas a un petit passage très très beau quand il parle que grâce à Jésus, nous avons un regard sur le démon qui est tout différent que le regard de l'Ancien Testament. Grâce à Jésus et par Jésus, nous sommes victorieux du démon. Donc nous n'avons jamais à avoir peur du démon. Ceux qui ont peur du démon, ils oublient que Jésus l'a terrassé et que Marie a écrasé sa tête. Vous savez, quand vous écrasez la tête d'un serpent, la queue continue de remuer. Et elle remue d'autant plus fort que la tête est mieux écrasée. Alors c'est remu de la queue. Ça nous fait peur, je comprends, quand on n'est pas habitué. Non, on sait que la tête est écrasée par Marie. Et donc on n'a plus peur. Il faut dégonfler ses peurs pour qu'elles ne prennent pas tout. Et qu'on sache qu'on est des victorieux. Alors quand on est des victorieux, on ne s'inquiète pas, vous savez, des petits aboiements de droite et de gauche. C'est vrai que les aboiements la nuit, ça fait toujours beaucoup d'effet. Et quand vous faites le petit voyage de Neulise à Saint-Jodard, la nuit, il y a des quantités de chiens. J'aime beaucoup de faire ce petit voyage. Je ne le fais pas exprès, mais ça m'arrive de faire ce petit voyage. Alors on entend tous les aboiements. Alors, si on n'est pas victorieux, c'est pas très drôle. Et si on est victorieux, on dit bois, bois, bois. Ça n'a pas d'importance, on continue. Vous voyez, ce que fait l'Esprit Saint, il désamorce ses peurs. Les désamorce. Parce qu'on a peur d'être vaincu. Si on sait qu'on est victorieux, on n'a plus peur. On continue ça. Et on laisse les petits roquets aboyer. Le démon est un petit roquet, vous voyez, qui aboie. Il a la tête écrasée. Alors, il aboie très très fort. Il la voit d'autant plus fort qu'il voit que autour de lui il y a des gens qui ont très peur de lui. Alors on respecte le démon. On respecte le démon en tant qu'il est un ange. Mais en tant qu'il attaque avec son venin et qu'il essaie de nous détourner de la voie droite, alors on le méprise. Ce petit passage est très très important. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire et vous ne pouvez les porter à présent. Ça aussi c'est très beau. Jésus ne peut pas tout nous dire sur le paraclet. Quand il viendra, celui-là, l'esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité totale, tout entière. Jésus laisse au paraclet le soin de nous conduire à la vérité tout entière. Ça, c'est très fort et c'est très important pour la conduite de l'Église. Vous voyez, le traditionnalisme, ça consiste à ne jamais rien vouloir ajouter à ce qui a été déjà dit. et c'est oublier cette parole de Jésus. L'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière. Et donc, Jésus, par avance, nous montre que l'Esprit Saint nous dévoilera des mystères sur l'Église, sur nous, qui n'ont pas encore été dits. Mais cela ne doit pas permettre à dire tout ce qui est nouveau est l'Esprit Saint. Ah, pas du tout. Conservare, rénovare. C'est le très grand critère. Tout renouveau se fait à l'intérieur de l'Église qui garde pleinement et totalement la parole de Jésus. C'est toujours à la parole de Jésus à laquelle on revient. Et on comprend que cette parole a une fécondité infinie. D'où le rénovare. Quand il viendra, celui-là, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité totale, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira ce qu'il entend. Il vous annoncera ce qui doit venir. Là, c'est très beau comme discernement de l'Esprit de prophétie. L'Esprit Saint tout le temps nous pousse devant. Il ne fait pas tout le temps regarder en arrière. Celui qui regarde toujours en arrière, il est changé en statue de sel. Tandis que celui qui est docile à l'Esprit Saint, celui-là, il avance en portant tout ce qui a été dit avant. Et donc, il faut toujours se conservare et se rénovare. Ça, c'est le propre de l'amour. C'est l'amour qui fait ça. L'amour ne peut pas se contenter de la répétition. L'amour veut toujours quelque chose de neuf. Vous voyez, toutes les querelles qui ont eu lieu après Vatican II, si on les avait illuminés par ce texte, on n'aurait peut-être pas été aussi véhément dans les critiques. Un concile n'est jamais contre les conciles précédents. Il est toujours lié au concile précédent. Et il nous donne quelque chose de nouveau. Autrement, l'Esprit Saint n'aurait pas permis un concile. Il faut toujours se dire ça. Et donc, je ne peux pas ramener un concile dernier à tout ce qui a été dit avant. Parce qu'alors, je dirais à ce moment-là, le Nouveau Testament ne fait que répéter l'ancien. Ce que disent certains. Non, c'est pas vrai. Le Nouveau Testament apporte du nouveau. Jésus, l'Esprit Saint, les trois personnes divines. Ça, c'est sûr. Et donc, celui qui prétend que le Nouveau Testament ne fait que répéter l'ancien, voyez, oublie que l'Esprit Saint conduit l'Église et qu'il nous conduit à la vérité tout entière. Ce qui permet de comprendre que certaines affirmations d'Église ne sont pas contenues explicitement dans la parole de Dieu. L'Assomption, l'infaillibilité de Pierre, c'est pas contenu explicitement, c'est contenu dans la tradition qui porte la parole de Dieu. Et qu'il y a quelque chose de nouveau que l'Esprit Saint nous donne à chaque siècle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au Concile? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans notre 20e siècle? L'Église qui doit cheminer dans le 20e siècle, sous la conduite de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint nous apporte de nouveau? Il faut se poser la question, ça. Et l'Esprit Saint nous apporte quelque chose de nouveau, parce qu'il nous conduit toujours vers la vérité plénière. Vatican II doit se comprendre à partir, comprenez bien, Vatican II doit se comprendre pour lui-même, en assumant tous les conciles précédents. Donc, il implique tous les conciles précédents. Il n'est pas dialectiquement en opposition. Il est au contraire en harmonie. Mais il apporte quelque chose de nouveau. Alors, quel est ce quelque chose de nouveau qu'apporte Vatican II? L'absolu de la charité fraternelle, je crois. Et c'est pour ça qu'on montre Marie comme celle qui vit pleinement et totalement de cette charité fraternelle et des vertus théologales. Alors on a dit concile pastoral. Ça me gêne toujours un peu quand on dit ça. Parce que je ne sais pas si le Saint-Esprit se dérange pour un concile pastoral. Et uniquement pastoral. Parce que qui dit pastoral dit déjà une application. Tandis que l'Esprit Saint nous révèle toujours quelque chose de la source. Alors, le quelque chose de la source, c'est la charité fraternelle. Et quand vous relisez tout le concile dans cette lumière, vous dites, ah, c'est vrai. Qu'est-ce qui a été révélé par Jésus dans la dernière semaine? Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Et cela, c'est bien l'œuvre ultime de l'Esprit Saint. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Vous voyez, au point de départ, il y a l'affirmation aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Et aimer le prochain comme vous vous aimez vous-même. Puis progressivement, l'affirmation de la charité fraternelle prend toute sa force. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Voilà ce que nous donne la révélation. Faudrait maintenant, je ne vais pas le faire, regardez la dernière encyclique du pape. Si vous pouvez la lire pendant ces quelques jours, ce serait très bien. Et vous noteriez toutes les questions que vous ne comprenez pas. Le Saint-Père commente ce passage que je vous ai dit. Il le commente à sa manière. J'avais hésité de prendre directement son commentaire, qui est très beau. Si on a le temps, on le fera. Mais j'aimais mieux, vous voyez, regarder avec vous directement la parole de Dieu. Théologie biblique. Théologie de l'Église. Tout l'enseignement de l'Église sur l'Esprit Saint. Le Saint-Père rappelle qu'il n'est pas le premier à avoir écrit une encyclique sur l'Esprit Saint. Il y a un enseignement de l'Église sur l'Esprit Saint. Il y a une théologie d'Église sur l'Esprit Saint. Alors, on va regarder maintenant ce que cette théologie de l'Église sur l'Esprit Saint nous donne. Alors, je prends le meilleur théologien sur l'Esprit Saint, qui est Thomas d'Aquin. je m'appuie ici sur ce que l'Église elle-même nous dit. L'Église elle-même ne cesse de nous rappeler, Thomas d'Aquin, c'est le théologien par excellence, avec saint Jean. C'est là où les deux se rencontrent. Jean est le théologien par excellence au plan de la révélation, au plan de l'Esprit-Saint. Je crois que c'est Jean qui nous dit les choses les plus profondes sur l'Esprit-Saint. Et le théologien par excellence de l'Esprit-Saint, c'est Thomas d'Aquin. On essaiera de comprendre pourquoi. Je voudrais, avec vous, regardez la manière dont Thomas d'Aquin veut nous faire entrer dans le mystère de l'Esprit-Saint. Et puis après, comment il nous montre que c'est le sommet de toute la théologie. Alors, comment Thomas d'Aquin, théologien de l'Esprit-Saint, nous fait entrer dans ce mystère. Autrement dit, voir la théologie de l'Esprit-Saint chez saint Thomas. Saint Thomas sait, en théologien, que l'intelligence humaine, par elle-même, ne peut rien nous dire du mystère de la très sainte Trinité. Il faut toujours se rappeler ça. C'est tout à fait différent quand on parle du mystère de Dieu dans son unité. Quand on parle de Dieu dans son unité, le théologien sait que l'intelligence humaine peut affirmer que Dieu existe, mais l'intelligence humaine ne peut pas savoir comment il existe. Ou plus exactement, l'intelligence humaine ne peut pas savoir par elle-même ce qu'il est. Alors, elle essaie le mieux possible de montrer que Dieu existe de telle manière. Dieu existe dans la simplicité, Dieu existe dans la perfection, Dieu existe dans la bonté, Dieu existe comme un être infini, Dieu existe comme un être qui dépasse toutes les limites de temps et de lieu. Il est omniprésent, il est éternel. Toute la philosophie est au service de cette connaissance de Dieu. Voilà ce que le théologien affirme. Le philosophe n'est philosophe que s'il atteint la sagesse et que s'il regarde Dieu. Donc toutes les philosophies qui se ferment sur l'homme ne sont plus des philosophies. Pas dire ça trop fort dans le monde d'aujourd'hui, mais il faut quand même le dire. La philosophie n'est sagesse que lorsqu'elle montre que l'homme doit se dépasser et regarder l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu et qui est le Créateur. Et lorsque le théologien parle de la très sainte Trinité, il sait, et le dit tout de suite, que la très sainte Trinité, on ne peut en parler que comme croyant. Je ne peux absolument pas affirmer par moi-même qu'il existe nécessairement en Dieu trois personnes dans la simplicité. Mais le théologien est serviteur de Dieu et serviteur du croyant doit essayer par tous les moyens de dire quelque chose de juste de la très sainte Trinité. Et saint Augustin, qui est un des premiers théologiens de la très sainte Trinité, dans son traité sur la très sainte Trinité, qui est très beau, qui est plus facile que celui de saint Thomas, parce que plus psychologique, mais moins vrai, parce que plus psychologique, mais qui est quand même très beau, saint Augustin donne ce traité de la très sainte Trinité, et au début, saint Augustin dira, on peut dire très peu de choses sur la très sainte Trinité, très peu de choses. C'est le prophète qui dit « Ah, ah, ah ». Mais saint Augustin ajoute tout de suite, le peu de choses qu'on dit sur la très sainte Trinité éclaire tout le reste. Le théologien, quand il est en face de ce mystère de la très sainte Trinité, et donc de l'ultime moment de la très sainte Trinité, l'Esprit Saint, sera toujours soucieux de maintenir la simplicité absolue de Dieu. Dieu est absolument simple. Donc, il est un. Pas de simplicité sans unité. Il est absolument un. Absolument simple. Et dans cette simplicité, il s'agit de voir trois personnes. Cette simplicité absolue de Dieu. Mais c'est ça qui est capital à bien saisir. Je ne peux rien affirmer de Dieu sans affirmer qu'il est simple. Il est absolument simple. Et en tant que croyant, je dis que dans cette simplicité, il y a trois personnes. Alors, à première vue, c'est contradictoire. Ça apparaît contradictoire. Dieu est un et trois. Alors, le bon sens humain, un et trois. Oui, mais l'unité de Dieu n'est pas une unité numérique. Et les trois personnes ne sont pas non plus de l'arithmétique. Autrement, je dirais, et voilà un, voilà trois. Alors il y a peut-être moyen de faire que ces trois s'emboîtent et que ça vient un. Faites ça pour les enfants. Hein. Choses qui s'emboîtent. Alors vous voyez une d'abord, une belle petite beau petit vase. Puis peut-être le magicien tiré du vase. Ah tiens. Deux. Un. Puis encore après, un nouveau soupir. Ah puis trois. Vous comprenez que c'est une image, hein. Ça dit rien du tout, parce que c'est pas ça du tout. Mais, petite image. Et c'est vrai, comment on va entrer dans le mystère de la très sainte Trinité? Saint Thomas est attentif à la parole de Dieu pour voir comment les trois sont dans la simplicité. Saint Thomas voit ce que dit Jésus, je procède du Père, jeu. Procède du Père. C'est la procession. Un verre enfoncé dans un autre verre. Quand je l'enlève, il y a une procession. Il procède. Il vient de la source. La source cachée, le Père. Du Père procède le Fils. Et c'est le Fils qui nous le dit. C'est merveilleux. Soit le Fils qui nous dit qui est le Père. Et donc, tout le traité de la très sainte Trinité au plan de la théologie va commencer par le point de vue de qu'est-ce que c'est que la procession. Vous savez, ce qu'on a dit pendant le concile, quand on voyait tous ces évêques, la procession des évêques, alors il y avait un évêque américain à côté d'un évêque indien. L'évêque indien était très très plongé dans le silence. L'évêque américain lui donne un petit coup de coude. Regardez cette magnifique procession de mitres. Et l'évêque indien répond: je contemple la procession de la très sainte Trinité. La procession, oui, ça procède. Le Fils procède du Père. Et c'est vrai, c'est dans l'Écriture le mot procession. Et saint Thomas va s'employer tout de suite de ça en disant: qu'est-ce que c'est que procéder d'un autre? Qu'est-ce que c'est venir d'un autre? Venir d'un autre, ça peut se faire de deux manières différentes. Ou dans une immanence parfaite, quand il s'agit de l'Esprit. Ou dans une extérieure.